Bonsoir à tous et bienvenue dans Café Noir. Café Noir qui reprend cette année, qui vous souhaite des bons vœux sur Syllab, ici ou ailleurs. Enfin voilà, c'est une bonne année 2026 qui commence. On va continuer avec les découvertes musicales tous les 15 jours et des plages pacifiques, des grands moments musicaux à partager ensemble sur cette antenne. On commence l'année avec Morcheeba. Morcheeba, c'est un groupe anglais de jazz rock qui a son origine dans l'herbe que l'on fume. Morcheeba, ce serait une herbe qui fait planer, qui a des vertus particulières. Alors je rappelle quand même que les drogues sont quand même plus destructrices que créatrices. Voilà, il y a plus de personnes qui ont détruit leur avenir avec ça que vraiment construit quelque chose. En tout cas, bon, là c'est le nom du groupe Morcheeba et on va s'écouter deux titres. Les deux titres, c'est Call for Love et Molten.
Thank you.
Et bien voilà, Morcheeba, Call for Love, un appel à l'amour. Et là, on enchaîne avec Molten, c'est toujours Morcheeba. L'album s'appelle Escape the Chaos, échapper au chaos. Escape the Chaos, c'était l'album Café Noir de la semaine, Morcheeba. avec ce titre Molten. On reste dans l'ambiance Dry January avec voilà, ce mois de janvier où on reste calme et serein avec Gwendoline. C'est un groupe breton, ils viennent de Brest, ils ont un pied à Rennes aussi je crois. Et ce titre, Chevalier Ricard, l'album s'appelle Après ses gobelets, la thématique est toute trouvée. Et la thématique, malheureusement. Alors la thématique, effectivement, vous aviez compris qu'il s'agissait de, de l'alcool. Et c'est pareil, l'alcool, c'est avec raison. Et c'est le problème quand on commence une émission, parce que l'émission Café Noir, effectivement, est quand même relativement récente. Donc il y a parfois des petits problèmes techniques. Et quand on veut lancer un titre, il ne vient pas. Ben là, il vient. Voilà, c'est Gwendoline. Chevalier Ricard, c'était Gwendoline. Retour au sérieux à présent avec l'entretien. Il est midi et quart et c'est le moment de l'entretien de Café Noir. Cette semaine, c'est Pascal Horry, un académicien qui a écrit un très bon ouvrage sur la liberté d'expression qui s'appelle « Ce que dit Charlie » en parlant de Charlie Hebdo, de ses causes et de ses conséquences. Et voilà, je vous laisse apprécier cet entretien. Donc on ne parle pas musique cette semaine, on parle liberté d'expression en général avec Pascal Horry. Café Noir, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, Pascal Horry, la liberté d'expression, c'est un grand sujet. Et on peut se demander ce qu'est Charlie, ce oui. Que dit Charlie.
Oui, c'est une question, vous le savez, si vous me posez la dite question, que je me suis posée au moment du massacre de Charlie Hebdo. J'y étais sensible pour des raisons personnelles. J'étais un ami personnel aussi de Cabu. Par ailleurs, historien des formes dites populaires ou de masse, en tous les cas faiblement légitimées de culture, j'étais très sensible à la bande dessinée, au dessin de presse, à la caricature. Ça, c'était une situation en quelque sorte scientifique. À l'université, j'étais connu comme un directeur de recherche qui pouvait accepter des sujets sur ces objets-là, faiblement légitimés à l'époque, qui sont presque à la mode maintenant, hein, parce que je vous parle d'une période lointaine. Et je ne m'attendais évidemment pas à ce que la mort survienne, et plus que la mort d'une certaine façon. Il faut dire que j'ai pas été le seul, parce que j'étais présent, c'était un hasard, du côté de la place de la République le soir du massacre, puisque le massacre a eu lieu en fin de matinée, pour simplifier. Et il y avait déjà beaucoup de monde qui brandissait des crayons. Ensuite, le mot d'ordre « Je suis Charlie » a surgi, ce qui était une solution, c'est-à-dire qu'on disait « je » parce que partons du principe que nous sommes actuellement dans la période, à l'échelle du monde, hein, pas seulement de la France, la plus individualiste qui ait jamais existé. Ça va peut-être d'ailleurs encore se poursuivre et s'amplifier. Donc dire « je », c'est assez important. Alors que moi, évidemment, je viens d'une génération qui croyait encore beaucoup plus au collectif.
Je suis Charlie, donc nous sommes.
Donc nous sommes, et ce qui était assez beau, c'est que c'était décliné. Alors je parle au passé, mais à mon avis, c'est quand même un type de réponse qu'on pourrait imaginer demain, si une catastrophe analogue nous tombait dessus. Je suis arabe, je suis juif, je suis flic, etc. C'est-à-dire, je est un autre, et je considère, si je brandis ça, si je brandis un crayon, que nous avons le droit de vivre en bonne intelligence, hein, comme on dit du côté de la ville de Rennes. Et alors la liberté d'expression, ça a été évidemment capital dans cette affaire, parce que je faisais partie de ces chercheurs qui avaient commencé à travailler un peu sur Charlie Hebdo. On a été quelques-uns à sortir, je dirais, 3 semaines après le massacre, un ouvrage collectif, où on déclinait un petit peu tous les aspects de ça. Et puis, quelques temps après, j'ai moi-même écrit un livre qui partait de la question de la caricature, par exemple, pour arriver à la laïcité et à la liberté d'expression. Il faut savoir que la liberté d'expression, bon, la France a été... relativement, mais pas absolument pionnière, hein. C'est l'Angleterre, hein, qui a été pionnière en ce qui concerne la liberté d'expression. Ça, les Français ont toujours du mal à admettre que les Anglais les précédaient. Dans une perspective dite libérale, la presse au sens moderne, elle naît en Angleterre. Le modèle anglais s'implante assez vite en France, mais quand même, la France n'a pas tout inventé. La Révolution française n'arrive que 4e après 3 révolutions, la néerlandaise, l'anglaise, l'américaine. Il faut quand même se rappeler toujours ça. Et mais la liberté d'expression, incontestablement, c'est un lieu de rencontre entre plusieurs familles politiques. Dès que vous êtes, grosso modo, dans la minorité, vous réclamez la liberté d'expression. Le test, c'est que quand vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous continuez à la respecter ?
Et l'histoire est parsemée de périodes comme ça, censure, liberté. On est dans laquelle ?
Alors, elle est parcourue dans un pays comme la France. Attention, l'Angleterre a réussi à échapper à ces alternances, parce que nous sommes un vieux pays monarchique. Je suis désolé de le rappeler. Il faut croire que nous aimons ça. Je suis désolé de le rappeler. Nous avons une tradition monarchique. Et effectivement, l'expérience de la Révolution a montré qu'on pouvait en extraire des formes de liberté. Et la période de l'histoire de France où a été non seulement proclamée, mais admise la plus grande liberté d'expression, ça a d'abord été le début de la Révolution, mais ça a duré 2 ans. Ensuite, tout s'est crispé. Et par exemple, les montagnards ont été des censeurs extraordinaires aussi, hein, et sans parler des guillotineurs qu'ils pouvaient être contre leurs adversaires. La deuxième époque, c'est la Troisième République, avec la loi sur la presse. Là, on est dans les années 1880. C'est une loi qui fait que la presse de cette époque était plus libre qu'elle ne l'est aujourd'hui, hein, faut le savoir. Le sommet de la liberté d'expression, c'est dans ces années-là, quand les Républicains arrivent au pouvoir, et miracle, au lieu de tout monopoliser pour eux, ils acceptent une large liberté d'expression. Aujourd'hui, entre la diffamation, les lois mémorielles, etc., je vous le signale, il est évident qu'on est loin des États-Unis qui, jusqu'à Trump, évidemment, jusqu'à Trump, était le pays du premier amendement. Dans cette logique-là, un nazi ne peut pas être bâillonné tant qu'il n'appelle pas, par exemple, à la subversion du régime. En France, il est évident que, comme dans la plupart des pays d'ailleurs du monde, ce qu'on appelle liberté d'expression, c'est une liberté qui est encadrée, en particulier par la législation sur la diffamation. Même en France, sous la troisième, très vite, on a dit « Ah oui, mais attendez, il faut quand même qu'on se défende contre la diffamation personnelle. » Et contre un certain nombre de doctrines qui ne sont pas admises dans l'espace de la liberté d'expression. Donc c'est facile de proclamer la liberté d'expression pour soi-même. Le test, je le répète, c'est quand il s'agit de la donner à votre adversaire, à votre ennemi.
Et alors, quand on s'exprime numériquement, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de médias, en fait, qui permettent de propager la parole, qu'est-ce qui peut permettre de s'appuyer sur une charte, une déontologie, des mots qu'on oublie, notamment ?
Ben, vous savez, le pays qui se rapproche le plus de la démocratie, pour moi, c'est évidemment pas la France, c'est la Suisse. Alors, on peut dire, oui, la Suisse, les coffres-forts. Non, mais attendez, la Suisse, c'est un pays de démocratie participative, ce que la France n'est toujours pas. Ils font depuis un siècle et demi de la démocratie participative. Effectivement, ils ont des règles du jeu qui viennent de ce qu'ils sont protestants, pour une bonne majorité. Le pouvoir en Suisse, à un certain moment, a basculé entre les mains des protestants. Et donc, ils avaient un rapport à la liberté d'expression plus sincère, plus profond que les catholiques. Je le dis d'autant plus que moi, je suis né à Fougères, j'ai grandi à Rennes, dans une atmosphère catholique. Mais franchement, le catholicisme est un système centralisé qui est très tenté par la censure. D'ailleurs, le mot censure vient des Romains, mais via le Saint-Siège. Hein. Donc, nous avons des pays où il y a effectivement des sortes de chartes, des textes de référence, et surtout, on vérifie au quotidien qu'il peut y avoir pluralisme. Aujourd'hui, le problème, c'est que la technologie de la communication, qui est quand même capitale, évolue dans un sens qui n'est peut-être pas favorable à une liberté d'expression qui serait conforme au rêve que je peux en faire. En d'autres termes, parce que ça peut paraître un peu obscur ce que je dis là, mais il est évident qu'à l'époque des réseaux sociaux, c'est le triomphe d'une culture, effectivement, ce que j'appellerais individualiste de masse. Je crois que c'est ça où nous en sommes. Nous sommes plus que jamais individualistes, je viens de le dire, mais dans une société de massification. Le réseau social, c'est le croisement des deux. Bon. À l'époque des réseaux sociaux, à l'époque de la mort programmée d'une partie des médias, c'est-à-dire tous les médias papier. Parce qu'on dit souvent presse écrite. Moi, je viens de la presse écrite. Mon père était journaliste à West France, etc. Bon, elle est en train de mourir, mais il ne faut pas l'appeler écrite. C'est la presse imprimée. En revanche, l'écrit triomphe, mais sur écran. Sur écran. Donc, vous avez des médias qui meurent. C'est triste, certainement, à dire, mais grosso modo, c'est la société qui les fait mourir. C'est-à-dire qu'on n'achète plus de journaux papier. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un grand méchant derrière, quel que soit son nom, qui manipule tout. La société vote avec ses pieds. Elle abandonne certains médias. Bon. Les réseaux sociaux les remplacent en partie. Le deuxième problème, c'est l'IA, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes quand même grandement menacés par des formes de manipulation universelle.
Big Brother is watching you.
D'une certaine façon, en tous les cas, les moyens sont donnés à chaque époque pour contrôler l'opinion. Ce qui compte, c'est d'avoir des institutions où il y ait des contre-pouvoirs. Je pense que là, ça peut paraître modeste comme conclusion, mais il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Je suis convaincu que n'importe quel révolutionnaire idéaliste qui arrive au pouvoir va en abuser. Ça me paraît fondamental. Je suis historien quand même. Ça se vérifie sans arrêt. Donc il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs.
Il faut quand même donner de l'optimisme à la sociologie.
Je ne suis pas sociologue. Je pense que l'histoire est une science sociale, c'est-à-dire que son objet, c'est la société. L'objet de l'histoire, ce n'est pas le passé, c'est le temps. Donc nous sommes dans le temps. Ce que j'espère, c'est que le temps actuel, avec des personnalités comme Trump, comme les dirigeants chinois, comme bien sûr Vladimir Poutine, cette société produit de l'interdiction de la censure à tire-larigot. Mais très sincèrement, à toutes les époques, il y a eu ça. Ce qu'il faut espérer, c'est que les contre-pouvoirs finissent par maintenir au moins un lieu de débat ici et là. Je ne suis pas sûr qu'à l'échelle de la planète, à l'heure actuelle, nous soyons à la veille de la construction de cet idéal de la liberté d'expression. Honnêtement, il n'y a aucune raison de penser que les sociétés humaines aillent en ce moment vers plus de liberté. Je vois bien d'excellents motifs de renforcer l'autorité. Et j'ajoute, pour bien mettre chacun devant ses responsabilités, que par exemple, la prophétie écologique actuelle, prophétie, c'est pas du tout péjoratif. Le mouvement de l'écologie politique, c'est un mouvement néo-religieux, on les connaît bien, peut conduire à des régimes autoritaires. Si ce que les écologistes nous disent à ce moment sur ce que sera la planète dans 50 ans, dans 100 ans, est-ce que vous imaginez que ça va développer la démocratie participative? Mais non, ça pourrait être, dans le pire des cas, un régime absolument totalitaire, parce que ça sera ça ou nous disparaissons de la planète. Donc, franchement, je n'extrapole pas pour l'instant un progrès de la liberté, j'extrapole un progrès de l'autorité.
Merci, monsieur Horry, merci beaucoup.
Hélas, à bientôt.
Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Eh bien voilà, Café Noir, c'est fini. C'était à l'instant Les Temps Changent. Alors, c'était pas MC Solar, c'était Bob Dylan, The Times They Are Changing. Et l'interview d'avant, Pascal Horry, académicien, rencontré cet automne au sujet de la liberté d'expression. On se retrouve la semaine prochaine pour une plage pacifique. Et puis, dans 15 jours, pour un autre entretien. Très bonne semaine sur Syllab et à bientôt.